partout en Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Voraz au micro de Radio IDFM avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Bienvenue et merci d'être à notre écoute pour ce nouveau rendez-vous de l'économie en direct sur Radio IDFM. IDFM Radio, une émission que vous pouvez capter en FM sur la fréquence 98.00, en web radio idfm4.fr, en DAB+, et bien sûr avec notre appli. Ce matin, mardi 21 mars, tour d'horizon très complet Made in 95, puisque j'ai le plaisir de recevoir le président de la CCI, Pierre Kuchli, CCI 95 bien évidemment. Bonjour Pierre.
Bonjour Jacqueline, bonjour à tous.
Très heureuse de vous accueillir dans nos studios.
Plaisir partagé.
Voilà, il semblerait que nous soyons abonnés au nombre 21, puisque votre dernière venue était le 21 octobre, Pierre.
Si vous voulez, je peux réserver tous les 21 dans mon agenda et je reviens tous les 21.
Allez, chiche. Donc, Pierre, vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, vice-président de la CPME nationale, de la CCI Île-de-France, Paris-Île-de-France, et du CEFJ, Comité d'échange franco-japonais, mais également dirigeant de LSI, le savoir industriel, spécialisé en gestion intelligente de fluides. Comme le 21 octobre, un rendez-vous consacré à tous les événements à venir dans le Val d'Oise, mais aussi à certains qui ont eu déjà lieu et que vous souhaitiez commenter. Des événements incontournables pour valoriser notre département du Val d'Oise, département qui est l'un des plus jeunes de France avec 41% de sa population.
Je vous corrige.
Corrigez-moi.
C'est le département le plus jeune de France métropolitaine.
Ah, très bien. Ah, ok. Merci de cette
précision. C'est par ailleurs aussi le département dont la population s'accroît le plus tous les ans.
Très bien. Merci pour ces précisions. Donc, une population qui a moins de 30 ans. Hein, c'est à peu près ça. Une bonne raison pour que les élus mettent la jeunesse au cœur de leur stratégie. Et je pense que nous y reviendrons au cours de cette interview.
Avec plaisir.
Bienvenue Pierre Kuchli, encore merci pour votre présence en direct sur IDFM Radio. Avant de vous donner la parole, c'est maintenant notre instant saveur avec notre expert en bon petit plat. Et avant de vous donner la parole, après cette chronique du jour, juste après, nous aurons la rediffusion d'un extrait d'une émission qui a eu lieu en novembre 2021. Mais je vous en dirai plus après la chronique. Bonjour Bruno Vigoureux.
Bonjour Jacqueline, bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être à nos côtés ce matin.
Ah mais c'est toujours un plaisir. D'ailleurs, vous m'avez l'air en pleine forme ce matin, Jacqueline.
Ça va à peu près. À part que vous avez entendu, j'ai bien bafouillé pour le début.
C'est pas grave. Mais si vous êtes en pleine forme, tant mieux. Car je vous préviens, vous allez devoir vous accrocher. Pourquoi ? Eh bien, figurez-vous que vous n'allez pas en revenir. Savez-vous ce que je vous propose comme recette aujourd'hui ? Une entrée ? Non, non, non. Un plat ? Non, non, non. Alors, vous avez deviné ?
Un dessert.
Exactement.
Ah oui !
Un dessert.
Formidable.
Je crois même que c'est la première fois que vous m'entendez parler de dessert.
C'est vrai.
Je dois avouer que c'est pas franchement mon poids fort. Mais là, j'ai trouvé une recette immanquable, hyper simple et en plus... C'est François-Régis Gaudry, le célèbre chroniqueur culinaire de France Inter, une sorte de collègue donc, je plaisante, qui la propose sur Internet. Alors, de quoi s'agit-il, allez-vous me demander, gourmande comme vous êtes?
Absolument.
Eh bien, figurez-vous qu'on va faire un invisible aux pommes. Rien que l'intitulé de ce dessert, c'est un mystère, ça vous intrigue. Normal, moi aussi, je vous expliquerai. Tout à l'heure, le pourquoi du comment. Alors, pour ce gâteau, car on parle d'un gâteau, il vous faut 50 g de farine, un sachet de levure chimique, une pincée de sel, 3 œufs, 10 centilitres de lait, 20 g de beurre fondu, 20 g de sucre. Alors, j'attire votre attention sur le sucre. Moi, j'ai suivi les consignes avec 20 g de sucre. Et à l'arrivée, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu. Alors,
d'accord,
n'hésitez pas à en rajouter. Et bien sûr, il vous faut des pommes, un bon kilo de mélange entre sucré et acidulé. Pour réaliser ce gâteau, il vous faut aussi un saladier et un moule à cake, tout ce qu'il y a de classique. Alors pour commencer, vous préchauffez votre four à 200 degrés. Et ensuite, dans votre saladier, vous versez la farine, le sucre, le sachet de levure chimique, la pincée de sel et vous mélangez avec un fouet. Ensuite, vous ajoutez les œufs et vous mélangez à nouveau. Vous mettez alors le beurre fondu et le lait et vous remuez encore une fois avec le fouet. Attention, je ne parle pas de fouet électrique, hein, mais d'un fouet à la main, que ça soit bien clair. Maintenant, vous pouvez vous occuper des pommes, vous les épluchez et vous les coupez en deux afin de faire des fines tranches, c'est-à-dire de 1 à 2 mm, pas plus, hein. Vous pouvez maintenant remplir votre moule à cake de pommes en les superposant un peu comme pour un gratin dauphinois. Vous prenez ce qu'on appelle votre appareil, c'est-à-dire le mélange avec la farine, le sucre, le lait et tout, et vous versez sur les pommes. Ce mélange va disparaître aussitôt dans les espaces et vous n'allez plus le voir. C'est une des raisons pour lesquelles on appelle ce gâteau l'invisible. Ensuite, c'est parti pour 40 minutes de cuisson, je vous l'ai dit, à 200 degrés. Vous sortez votre moule du four et vous laissez refroidir et vous démoulez. Je vous conseille quand même de beurrer légèrement votre moule, avant ce sera plus facile. Et juste avant de le servir, vous saupoudrez avec du sucre glace. Et là, Jacqueline, vous allez m'en dire des nouvelles. Vous allez vous apercevoir qu'à l'intérieur du gâteau, c'est comme, je vous le disais tout à l'heure, comme un gratin dauphinois ou alors, si vous préférez, comme une sorte de millefeuille de pommes. C'est un régal, surtout si c'est encore un peu tiède. Et vous connaissez l'autre raison pour laquelle on appelle ce dessert invisible aux pommes ? Parce qu'en 5 minutes, il n'en reste plus. Tout aura disparu tellement c'est bon. Bon bah voilà, je me suis lancé dans le dessert. Le prochain est prévu pour dans 10 ans. Non, je rigole. Mais en tout cas, n'hésitez pas, vous allez vous régaler. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses dans votre cuisine. Je ne vous dis pas à la semaine prochaine. Je vous retrouve au début du mois d'avril avec l'arrivée du printemps et de nouveaux plats. Au revoir et à très vite.
Merci Bruno, mais comme je l'ai déjà dit la semaine dernière, il y a aussi beaucoup la façon dont vous nous expliquez votre recette qui donne envie, c'est sûr.
Tant mieux.
Et je voudrais juste rappeler que, puisque Pierre Cuchely est avec nous, qu'il y a un an, on avait à peu près un an, j'avais reçu Pierre avec Stéphane Layani et Daniel Fargeau, vous aviez donné une recette et Pierre m'avait dit que son épouse qui avait écouté la recette l'avait fait le soir même, donc voilà.
C'est pas perdu.
Peut-être
tant
que
mieux.
Ce soir, Pierre, vous allez manger un invisible aux pommes.
Regardez-le bien quand même.
Merci. Alors à bientôt.
À bientôt.
Bruno.
Au revoir. Bonne émission.
Merci. Radio, IDFM Radio, nous sommes mardi 21, c'est l'économie en direct. Pierre Cuchely, vendredi dernier, j'ai lu un communiqué de presse annonçant le décès brutal, lundi 13 mars, de Guillaume Mullier, président de la Fédération Nationale de 60 000 Rebonds. Vous l'aviez croisé plusieurs fois et je vous propose de lui rendre hommage en écoutant la rediffusion de son interview du 12 novembre 2021 à l'antenne, en direct, lors d'une spéciale 60 000 Rebonds avec Frédéric Anfray et Brieux Maisonneuve. Et après la rediffusion, on dit quelques mots de Guillaume Mullier. À tout de suite. Guillaume Mullier, en quelques mots, pourriez-vous vous présenter auprès de nos auditeurs ?
Vous avez déjà tout dit.
Ah non, j'ai rien dit.
Bah écoutez, j'ai 60 ans, j'ai 10 petits-enfants.
Ah, bravo.
Et sur le plan professionnel, en effet, j'ai créé mon entreprise en 95 avec 5 associés. On était une douzaine de personnes et aujourd'hui, on a développé une belle entreprise de 430 personnes, 42 millions et dans les logiciels. Par ailleurs, j'ai toujours été assez engagé dans le milieu associatif, dans l'école, chez les scouts, dans le lancement du réseau Entreprendre pour la région Rhône-Alpes, mais qui a ensuite servi de modèle pour toute la France.
Oui.
Et puis depuis 2015, sur le projet donc 60 000 rebonds, qui était à l'époque un petit projet, à l'époque il y avait c'était fondé en 2012 et donc à l'époque il y avait 5-6 villes et que nous avons pu depuis développer pour accueillir un plus grand nombre d'entrepreneurs qui ont connu les affres de la perte de leur entreprise, de la perte de leur emploi. Et donc, je suis sur ce projet à mi-temps.
Oui, je crois qu'il y a 38 antennes maintenant à travers la France, hein, de 60 000
Exactement,
oui.
38 antennes. On est 1200 bénévoles à accompagner à peu près 600 entrepreneurs. Donc,
c'est une belle
réussite. Un beau mouvement de solidarité.
Alors, expliquez-nous, Guillaume Mullier, les raisons qui vous ont poussé à vous engager au service de cette noble cause.
Bah d'abord, j'avais une certaine disponibilité parce que j'étais organisé dans mon entreprise avec un directeur général, donc je pouvais consacrer du temps au monde associatif. Et puis ensuite, historiquement, ma famille, dans la famille un peu connue dans le nord de la France, mon arrière-grand-père a connu la liquidation deux fois. Et je l'ignorais, parce qu'à l'époque, ça ne se disait pas.
C'est un secret de famille.
Et c'est un secret de famille, exactement, parmi tant d'autres.
Oui.
Et il a recréé en 1920, après avoir donc liquidé son entreprise. Et c'est les fondamentaux de cette petite entreprise textile de l'époque, qui est devenue un groupe immense, mais qui reste avec des fondamentaux axés sur « je ne veux plus connaître la liquidation, je ne veux plus me planter ».
Très bien.
Et donc, il faut que j'accepte les échecs pour capitaliser et corriger.
Oui, en même temps, votre grand-père, est-ce lui qui est à l'initiative de l'entreprise que tout le monde connaît aujourd'hui ?
Ben, il a fait une petite entreprise.
Oui.
D'abord, c'est pas mon grand-père, c'était mon arrière-grand-père.
D'accord,
donc,
oui,
en 1920, il a fait une petite entreprise de retordage de laine qui s'appelait Saint-Livin.
Oui.
Il n'avait pas d'argent, donc il l'a fait avec son cousin et un banquier qui a accepté de lui faire confiance.
Mm-hmm.
Alors qu'il avait déjà fait faillite deux fois. Donc ça, c'était à l'époque assez exceptionnel. Et ensuite, ce sont ses fils, donc mon grand-père et ses frères, qui ont pu développer une entreprise qui est devenue importante, qui est Fitard.
Oui.
Dans la laine. Donc là, c'est monté jusqu'à 2000 magasins, mais comme les meuliers à l'époque étaient très pauvres, eh bien, ils ont développé un nouveau concept à l'époque qui s'appelait la franchise. Donc il y a eu jusqu'à 2000 magasins en franchise.
D'accord.
Et ensuite, c'est un petit-fils donc de mon arrière-grand-père, un cousin de mon papa, Gérard Meulier, qui lui est parti dans la grande distribution pour fonder en effet tout le groupe que vous connaissez de la galaxie, ce qu'on appelle la galaxie Meulier.
Très bien, oui. Écoutez, c'est une belle histoire et ça prouve aussi que votre arrière-grand-père avait su rebondir à l'époque.
Ça prouve que le rebond est possible.
Absolument.
Et que c'est pas parce qu'on s'est planté une fois qu'on va se planter toute sa vie.
Ouais.
Au contraire, si on accepte son échec, on peut acquérir de l'expérience et éviter les mêmes erreurs et avoir le goût quand même d'entreprendre et de redémarrer. C'est assez exceptionnel. C'est ce qu'on voit avec les entrepreneurs qu'on accueille. La première difficulté étant de sortir de la solitude,
ouais,
de sortir de cet sentiment d'avoir de perte de confiance en soi. Et donc, on arrive à leur faire prendre conscience qu'ils sont, un, pas tout seuls, deux, qu'on les juge pas, trois, que les autres qui sont passés par la même souffrance qu'eux ont pris le temps de corriger leur fracture et de pouvoir repartir de manière forte et durable.
Oui, j'ai pu lire que vous disiez on n'a pas fini de se reconstruire.
Ah ben, jamais.
Jamais.
Jamais. Jamais, ça c'est sûr. La reconstruction est permanente. Rien n'est jamais acquis et rien n'est jamais perdu.
C'est vrai, c'est vrai. Alors vous-même, en tant que président national, quelle est votre mission ?
La mission du président, en général, c'est de rien faire.
Alors, est-ce votre cas ?
C'est un bon président. Donc, je suis un mauvais président, je fais quand même pas mal de choses.
Bon.
Non, c'est du réseau. C'est de nous faire connaître, c'est de participer à cette... c'est s'assurer qu'il y ait les bonnes équipes aux bons endroits, parce que c'est vrai que là, on a, c'est une fédération de 10 associations. On a créé la 9e sur la Martinique. Et je vais donner un petit scoop. On est en train de préparer la 10e. Même les gens chez moi sont pas au courant. Donc, je vais dire discrètement, vous ne direz pas trop fort. Mais c'est sur la Bourgogne. On
très
va
bien
préparer une 10e région.
Formidable.
C'est s'assurer aussi du réseau, du financement de l'association. Quand j'ai démarré, il y avait 30 000 euros de financement. Aujourd'hui, on se rend compte qu'une association, pour être pérenne, elle doit combiner les bénévoles. Donc, 1200 bénévoles, c'est génial. Mais il faut les organiser. Et là, il faut des gens qui soient salariés permanents. Il faut qu'ils soient permanents. D'où le financement. Donc, 1,2 million de financement aujourd'hui, qui est du public par des régions, mais surtout par des PME. Les PME qui nous donnent 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, 5 000 euros, comme c'est défiscalisé en dons, ça leur coûte que 40% de cette somme, effectivement. Et si vous faites le cumul de centaines d'entreprises, d'entrepreneurs qui sont solidaires, eh bien on arrive à financer une vingtaine de salariés permanents pour développer l'association.
Oui, oui, vous arrivez à fédérer, et oui, c'est une belle opportunité. Guillaume Mullier, vous êtes avec nous ce matin parce que donc à mes côtés il y a Frédéric Enfray, responsable de l'antenne du Val d'Oise, et puis Brieux Maisonneuve qui va être le skipper lors de la route du Rhum et qui va porter les couleurs de 60 000 rebonds. C'est une belle aventure, je crois.
Bah, c'est exceptionnel. En plus, la vague, on la monte et on la descend. Donc, les rebonds, il y en a quelques-uns là, entre ici et la Martinique.
Hein. Oui, absolument.
Donc ça, c'est top. Et je crois que Brieux est lui-même entrepreneur et qu'il a connu... mais ça, il va peut-être vous en reparler plus
tard. Oui, il va nous raconter.
Il comprend à quoi sert 60 000 rebonds, même si lui-même n'a pas connu. Donc, c'est très bien qu'on se fasse mieux connaître, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a 600 entrepreneurs accompagné, c'est bien, mais à côté des 30 000 entrepreneurs qui liquident chaque année, on a encore du chemin à faire. Oui, on a encore du chemin à faire. On peut en accompagner très certainement 2 000, 3 000 pour aller beaucoup plus loin. Donc, dans ce côté remise en confiance collective, solidarité collective entre entrepreneurs eux-mêmes, mais avec aussi des accompagnants que sont les coachs et les parrains. Et puis, par ailleurs, de dire que tout ça, ça contribue à recréer la richesse dans le pays, parce que la moitié recrée des entreprises. L'entrepreneur, il y en a la moitié qui a dit, bon, moi, je repars en salariat, donc intrapreneur, et c'est très intéressant, des gens qui ont le courage de se lancer, mais qui ont le courage de se remettre en cause. Et donc, ça va donner des cadres excellents pour bien des grands groupes. Et puis, par ailleurs, l'autre moitié disent, non, moi, je veux pas de patron. Ça doit être le cas de Brieux, qui est un peu dur de crâne, là, des Bretons. Là. Et qui disent, moi, je veux pas de patron. Donc, si je veux pas de patron, il faut que je sois le patron. C'est pas compliqué. Et donc,
alors, je crois que Brieux n'est pas breton, il est normand.
Mais c'était-tu aussi le normand?
C'est normand aussi.
Frédéric
Enfray. Ça a la tête dure quand même.
Oui, Guillaume Mullier, Frédéric Enfray, je crois, veut
intervenir. Oui, je voulais rajouter quelque chose, c'est que ce qui est magique dans ce partenariat qui a été initié par Laurent Klein, qui co-dirige avec moi l'agence du Val d'Oise, c'est que Brieux nous met le bateau à disposition pour porter les couleurs de 60 000 rebonds gratuitement. Donc, parce que de toute façon, 60 000 rebonds n'a pas vocation à sponsoriser un bateau avec son argent. Donc là, c'est l'inverse, c'est Brieux qui met le bateau à la disposition de 60 000 rebonds. Et c'est ça qui est magique. C'est un bénévole pour l'association. C'est un bénévole vraiment remarquable par rapport à l'image que ça va nous donner. Voilà, mais tout ça est gratuit, ne coûtera pas un rond. Et voilà, ça me paraît important de le préciser.
C'est important.
C'est très important, d'où la puissance du don.
Oui. Hein,
le don de IDFM qui ne nous demande rien non plus que de parler et de faire passer ces messages de rebond et de victoire. Un communiqué, l'étymologie communiqué, c'est partager les victoires. Nikaé, la princesse de la victoire.
Ah oui,
donc, elle a appris quelque chose, Jacqueline.
Ah oui,
aujourd'hui.
Complètement. Et
pas que Jacqueline. Hein.
J'adore l'étymologie, donc c'est parfait. Oui, oui, formidable.
D'où le c'est pour vous souvenir, vous pensez à la chaussure Nike.
Oui, oui, oui. Alors je savais.
Chaussure de la victoire.
Je savais que Nikaé, c'était. C'est Nicolas.
Enfin, non, d'accord.
Bon. Nike, oui. Mais. Pourtant, ce que je voulais vous dire, c'est que le sujet, fédérer des chefs d'entreprise, c'est en post-liquidation, ça reste délicat parce que par définition, un dirigeant se veut seul mettre à bord pour garder l'image de la marine.
Alors c'est pire que ça, Jacqueline, parce que les qualités du vrai entrepreneur, c'est être optimiste, c'est la persévérance et la fierté. Et c'est ça qui fait les belles réussites. Et ces trois qualités deviennent ses trois principaux handicaps quand il est dans l'échec. C'est-à-dire que l'optimisme se transforme souvent en déni. Ouais. Je ne veux pas voir ce qui ne va pas. Le pragmatisme se transforme en je vais trop loin, c'est de l'obstination.
Ouais.
Et la fierté souvent se transforme en honte. Donc l'entrepreneur, dans sa fierté ou dans son ego ou dans sa honte, se dit « je vais essayer de me débrouiller tout seul, même si j'ai les deux pieds dans la merde, la tête dans la merde, et je vais m'étouffer, mais je vais m'en sortir tout seul ». Et ça, c'est vraiment dommage, parce que quand on s'entraide, la puissance du don, de l'entraide, eh bien, elle permet vraiment de se sortir de situations très compliquées beaucoup plus vite. Et bien sûr, on ne veut pas de gens qui soient redevables. Donc c'est sûr que les gens qui sont sortis, un peu à l'image de Brieux, qui ont envie de contribuer, ils pourront le faire. Et ça sera leur don. Et il n'y a pas de dette. Chez nous, on ne parle pas de dette. Ça, c'était avant. Chez nous, on est dans le don.
C'est ça, ouais. Merci beaucoup, Guillaume Mullier. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée et à laquelle vous voudriez répondre ?
Eh bien, je ne connais pas la suite de... Je pense que ceux qui veulent venir nous rejoindre, n'hésitent pas. Ceux qui connaissent notre plus grande difficulté, vous avez raison, c'est de faire venir les entrepreneurs dans l'association parce qu'ils pensent qu'ils vont s'en sortir tout seuls.
Oui.
Or, c'est comme quelqu'un qui se casse la jambe. Il dit, ça sera bien tout seul. Sauf que si vous ne remettez pas les os dans le bon ordre, eh bien, toute votre vie, vous aurez mal.
Oui, oui.
Même si l'os se sera consolidé, mais peut-être de travers. Il faut résoudre, enfin, ça s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, comment, quand on parle d'un os, mais il faut le retirer, il le remettre dans sa place. C'est aussi ce que nous faisons, c'est traiter les souffrances des personnes pour que derrière, eh bien, ça soit vraiment traité. Et quand ils vont rebondir, eh bien, ils ne seront plus avec ces boulets toute leur vie. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose. Si vous connaissez quelqu'un qui a connu cette situation de perte d'entreprise, de liquidation, eh bien, il faut vraiment les encourager à venir nous rejoindre. Là aussi, c'est du quasi gratuit. Si on leur demande 30 euros pour l'association, c'est vraiment
c'est symbolique.
Cette séance de coaching, c'est vraiment montrer qu'ils sont engagés quand même, justement pour qu'on ne soit pas en dette, mais leur dire, va les voir. Je te mets sur le site web, 60000rebonds.fr. Regarde, il y en a dans toutes les régions. Il y a 38 villes. Ils sont tous en proximité pour t'aider. Ça sera d'autres entrepreneurs et des coachs qui t'aideront gracieusement, mais aussi les autres entrepreneurs qui étaient en situation de liquidation, qui deviennent entre eux du co-développement. Donc, une belle association. Un grand merci, Jacqueline.
Donc voilà pour cette rediffusion. Pierre, vous ne le connaissiez pas intimement, Guillaume Mullier, mais vous l'aviez croisé plusieurs fois, je l'ai déjà dit.
Oui, effectivement, j'ai eu l'occasion de rencontrer Guillaume Mullier à plusieurs occasions, deux ou trois fois. La dernière fois, c'était l'initiative de mon ami Frédéric Anfray, le président de 60000 rebonds dans le Val-d'Oise. Et j'avais été marqué à la fois par la simplicité, la gentillesse, l'empathie de Guillaume. Enfin, je veux dire, c'est un monsieur Mulliez, la famille Mulliez, tout le monde connaît, hein, c'est les fondateurs d'Auchan. Je pense qu'il avait les moyens de vivre tranquillement une vie, il a choisi une vie d'entrepreneur, il a créé sa propre entreprise. Il disait que chez les Mulliez, il y avait eu des succès, mais il y avait aussi eu des échecs.
C'est vrai.
Et lui, il a aidé beaucoup de gens, 60 000, je ne sais pas si le chiffre correspond au nombre d'entreprises qui ont été aidées. En tout cas, il a choisi d'aider les entrepreneurs en échec, parce que on parle souvent des entrepreneurs quand ils réussissent. On en parle parfois mal quand ils échouent. Ce qu'on oublie, ce sont des êtres humains et qu'ils ont besoin, comme d'autres, qu'on leur tende la main, qu'on les aide. Et je trouve qu'il le faisait avec générosité, avec beaucoup d'empathie et vraiment. Ça a été un choc pour moi la semaine passée lorsque j'ai appris effectivement le décès de Guillaume, parce que voilà, c'est ma grand-mère s'était fâchée le jour de l'enterrement de mon grand-père, parce que je lui avais dit que c'est souvent les meilleurs qui partent. C'est souvent les meilleurs qui partaient, les premiers.
Elle
l'avait très mal pris, et je crois que là encore c'est une démonstration. Voilà, c'est une très triste nouvelle. Je fais toujours des blagues, là c'est peut-être pas forcément le moment, mais voilà, c'est un garçon aussi qui avait beaucoup d'humour.
Absolument.
Et donc voilà. Voilà, je voulais.
On l'a bien entendu dans la rediffusion. Merci Pierre pour cet hommage. Si vous nous rejoignez, c'est l'économie donc en direct sur Radio UDFM et avec les événements dont nous venons de parler, mais surtout les thèmes de notre émission. Aujourd'hui, c'est le Made in 95 dans toute sa splendeur. Pierre Cuchely, mon invité, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Alors, ce rendez-vous incontournable la semaine prochaine, c'est le Salon Effervescence, Pierre. Et je vous propose qu'on commence par ce thème-là.
Avec grand plaisir.
Donc, un salon qui est soutenu justement par la Chambre de commerce et d'industrie et la plupart des réseaux d'entreprises du Val d'Oise. Je vous laisse peut-être nous rappeler son origine et sa formule.
Alors, vraiment, l'origine, c'était à Argenteuil. Avant même que tous les réseaux et que la Chambre de commerce et de l'industrie soient impliqués là-dedans, c'est une initiative que nous avions prise avec Philippe Écran, président de l'ADPAVAB, l'association des chefs d'entreprise du bassin d'Argenteuil-Beuzon et des communes autour. On s'était dit que voilà, on est dans une association, il y a 80-100 membres, on se croise régulièrement, mais on ne sait jamais ce que font les uns les autres. Et on avait choisi de se réunir dans une salle, chacun avec la même table et un produit, pour dire, ben voilà, et on tourne pour voir ce que fait chacun. La première édition, il y avait 33 personnes, je m'en souviens, parce que je tournais dans la salle en disant, dites 33, dites 33, dites 33. Et ce salon a évolué, effectivement, depuis s'est passé des choses. Je suis devenu président de la Chambre de commerce et d'industrie, Philippe est devenu mon premier vice-président, et nous avons... Il y a eu un mouvement qui fait qu'aujourd'hui, le salon Effervescence, c'est le salon de tout le Made in 95. C'est le salon de toutes les entreprises du Val d'Oise. C'est un salon qui réunit l'ensemble des réseaux, chambres de commerce, chambres des métiers, CPME, MEDEF, FFB, bien d'autres, et toutes les associations. Il y en a une quarantaine dans le Val d'Oise, et vraiment tout le monde est le bienvenu. Ça se passe comment? Ça se passe en deux temps. Il y a une première partie de 11h30 à 14h30 qui est réservée à nos exposants, donc qui sont en général des membres de nos associations, hein, et qui sont Made in 95, donc en tout cas, si elles ne le sont pas, on va les faire adhérer sur le champ.
Oui, une sorte de... On parle de speed meeting business, voilà, hein, dans ce salon.
Donc l'idée, c'est s'ils se connaissent, ben, de savoir ce qu'il y a neuf depuis l'année d'avant, s'ils ne se connaissent pas, de faire connaissance, et c'est d'échanger autour d'un petit pot, d'un petit casse-croûte, voilà, sous la forme. Tout le monde, il n'y a pas de stand réellement.
C'est ça.
Ce sont des manches debout, tout le monde est debout. Et l'idée qui avait été accueillie avec horreur la première fois qu'on a fait ça, aujourd'hui c'est un grand succès parce que comme les gens ne sont pas assis, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils bougent, ils vont les uns vers les autres. À 14h30, nous l'ouvrons au grand public, hein, donc tout le monde vient. Donc nous avons, je crois, 250 exposants cette année. Nous avons non seulement bien sûr des entreprises, nous avons aussi des écoles, nous avons des associations qui sont là, et notamment des écoles et des associations qui donnent leur chance à des jeunes qui en ont besoin. 14h30, donc l'inauguration officielle, puis donc l'ouverture au grand public. Nous avons donc 250 exposants, nous espérons 1200 visiteurs. Nous allons avoir un certain nombre de personnalités. Hein.
Oui.
Normalement, le ministre de l'Industrie m'a promis, Roland Lescure, m'a promis qu'il viendrait rencontrer des industriels. Et nous en avons au Salon Effervescence. Mon ami, le président Dominique Restineau, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, qui est notre maison mère à nous, hein,
oui.
M'a promis qu'il serait là aussi, bien sûr.
Il était là l'année dernière, puisque j'avais eu le plaisir de l'interviewer avec vous.
Mais Dominique Restineau est un habitué du Val d'Oise. Il vient à chaque fois qu'il peut. Et c'est bien pour un président de Cécile du Val d'Oise de pouvoir compter sur son président régional. Et puis, bien sûr, il y aura un certain nombre de personnalités politiques. Il y aura bien sûr, le maire de Goussainville qui sera là. Il y aura le président de l'agglomération de Roissy. Il y aura la présidente du département. J'espère toujours, je ne suis pas sûr qu'elle viendra, mais j'espère aussi la présence d'Olivia Grégoire, qui est la ministre des PME, que j'ai invitée. Mais j'ai un petit doute parce qu'elle a un agenda, bien sûr, très chargé.
Très chargé.
Il y aura bah, plein de gens.
Il y aura UDFM Radio.
Il y aura vous tous qui nous écoutez, parce que s'il y a un moment, s'il y a une journée où il faut être dans le Val d'Oise, c'est le jour où il y a effervescence. D'autant plus que donc là, le 28 mars, à l'espace Pierre Coubertin, à Goussainville, c'est la 10e édition. C'est une édition qui... Alors, ce n'est pas la dixième année, hein, parce qu'il y a eu
l'année
Covid.
Oui, avec le Covid.
C'est la dixième édition. Nous allons marquer le coup. Et j'ai parlé tout à l'heure des vedettes, mais j'ai gardé les meilleurs pour la fin. Il y aura notre ami Stéphane Layani, le président de la Sémaris, qui, vous le savez, a un gros projet sur l'est du département, et notamment sur Goussainville, qui sera présent. Et donc, l'effervescence va être, pour la dixième édition, un peu festive, un petit peu aussi tournée sur le projet Agorali.
Mais c'est ça, il y a un village qui va être dédié.
Il y aura un village, donc venez avec vos cabas, venez avec vos cartes bleues, venez avec votre argent, avec votre liste des courses, il va y avoir plein de choses à faire. Et puis, je crois que le soir aussi, il est prévu, alors c'est sur réservation... je crois que le soir, il y a
un dîner de gala.
Il y a un dîner de gala qui est prévu. Alors, j'ai toujours pas compris s'il fallait mettre un smoking ou si on pouvait venir en Bermuda. Écoutez, venez comme vous voulez, hein, comme ils disent chez McDonald's. Hein. Venez comme vous voulez, vous êtes les bienvenus. En tout cas, voilà, ça va être vraiment la fête du Made in 95. Moi, je rappelle aussi ce Made in 95, c'est pas un club fermé. C'est pas non plus c'est pas un label d'origine garantie. Hein. Made in 95, c'est un réseau d'entrepreneurs qui fabriquent, qui produisent des services dans le Val d'Oise. Ce qu'on demande, c'est ça. L'idée, c'est quoi? C'est de faire une marque Val d'Oise. Mmh. Ce département, on l'a dit tout à l'heure, c'est le département le plus jeune de France métropolitaine. C'est un département qui est encore trop souvent méconnu. Vous savez, quand vous dites à quelqu'un, vous parlez à quelqu'un d'Orly,
oui.
Tout le monde sait que c'est dans le Val-de-Marne. Vous parlez de Rungis, tout le monde sait que c'est dans le Val-de-Marne. Bientôt, quand on dira Roissy, les gens sauront que c'est dans le Val d'Oise. Quand on va dire Cergy, ils sauront que c'est dans le Val d'Oise. Et quand on va dire Agoralim, ils sauront que c'est dans le Val d'Oise.
Absolument.
Et pour ça, il faut qu'on s'y mette tous ensemble. Et cette idée du Made in 95, c'est ça. C'est un club. Alors, on n'a pas beaucoup d'argent, la CCI. Hein, donc, l'idée, c'est de dynamiser ces réseaux sans trop de moyens. Et on le fait. Alors, avec la Covid, on n'a pas pu faire grand-chose. Là, on a un programme qui est en train de repartir. Il y a un nouveau site Internet qui va être dédié au Made in 95. Moi, j'encourage vraiment les commerçants, les restaurants, les entreprises de services industriels et autres. Faites-vous labelliser Made in 95. C'est gratuit, c'est un réseau. Mmh. Vous allez sur le site de la Chambre des métiers et l'artisanat du 95 ou le site de la CCI du Val-d'Oise. Il y a un petit onglet. Rejoignez la communauté Made in 95. Vous cliquez dessus, vous avez 5 questions, le nom de la boîte, ce qu'elle fabrique, son adresse, son numéro de tirette, pour être sûr quand même que...
Oui, c'est bien une entreprise.
Hein. Et puis, vous avez par retour un mail qui... Alors, on vous pose aussi 2 questions. Est-ce que vous garantissez qu'au moins 50% de la valeur ajoutée est faite dans le Val d'Oise ou qu'au moins 50% de vos salariés y habitent, hein. C'est clair que une entreprise, et je n'ai rien contre personne, et l'entreprise dans le Val d'Oise, le type qui travaille tout seul, qui fait venir des stylos de Chine et qui les bazarde partout, ça ne nous intéresse
bien
pas.
Sûr.
Quoi.
Par contre,
clairement, voilà, vous rendez un service dans le Val d'Oise, il faut faire partie de ce réseau. C'est gratuit, c'est sympa, tout ce qu'on fait c'est sympa, c'est dynamique. Vous avez un pins, vous avez un kit de communication, vous pouvez utiliser le logo Made in 95, il y a une communauté... Il y a des systèmes de recherche. Vous recherchez une entreprise, vous voulez proposer vos services dans le Val d'Oise. Avec ce réseau, vous pouvez le proposer. Je vous encourage vraiment tous à le faire. Nous devrions, lors de cette 10e édition, fêter, j'espère, le 1200e adhérent
très bien.
À ce réseau. Alors, ça peut sembler énorme. Moi, je suis
vous
déçu.
Vous trouvez que c'est pas
moi,
assez.
Pour moi, il n'y en a pas assez. On devrait être 10 000, mais bon, voilà.
Oui.
On est à 20 jours.
Après cette interview, compte tenu de tout ce que vous avez dit, ça va monter en flèche, j'espère, en
moi
tout
aussi.
Cas. Merci Pierre, merci pour cette belle présentation du salon Effervescence. Avant de poursuivre, je vous propose un peu de musique. On se retrouve juste après.
Un nouveau jour dans ce monde, je me relève quand je tombe. La tête dans les nuages, j'attends tranquille la fin du monde. Au milieu de cet enfer, je ne suis qu'un homme et j'espère que le ciel restera clair. Et même si j'y crois, un peu comme tous les mots bleus, alors reste avec moi et regarde-moi dans les yeux. Tout ira bien, un sentiment qui fait du bien, tout ira bien. Tout ira bien, on pleure, on rit tout aussi bien. Tout ira bien, même si j'en sais rien. Jamais facile d'oublier tous les remords, les regrets. Jamais facile d'en parler, mais t'inquiète pas, ça va passer. dans le calme d'un hiver. Je ne suis qu'un homme et j'espère que le ciel restera clair. Et même si j'y crois, un peu comme tous les mots bleus, alors reste avec moi et regarde-moi dans les yeux. Tout ira bien, ira bien. Un sentiment qui fait du bien. Tout ira bien, même si j'en sais rien. Tout ira bien, ira bien. On pleure, on rit tout aussi bien. Tout ira bien, même si j'en sais rien. Sentiment qui fait du bien, tout ira bien, même si j'en sais rien. Tout ira bien, on pleure, on rit, tout aussi bien. Tout ira bien, même si j'en sais rien, même si j'en sais rien. Tout ira bien, un sentiment qui fait du bien, tout ira bien.
Merci d'être resté sur IDFM Radio à l'économie en direct pour notre spécial Made in 95 en compagnie de Pierre Cuchely, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, vice-président alors de la CPME nationale en charge des territoires, de la CCI Paris-Île-de-France et du CEFJ, comité d'échange franco-japonais, et dirigeant de LSI, le savoir industriel. Pierre Cuchely, le 8 mars, je suis certaine que vous avez beaucoup de commentaires à faire passer pour cette journée internationale des droits des femmes, puisque nous nous sommes croisés au domaine des Cormelas, où il y avait un événement organisé par les FCE, le club AS et les EAF. Et vous nous avez raconté une anecdote, Pierre, que je vous laisse nous raconter à nouveau.
D'abord, je voudrais dire que moi, je me bats depuis toujours pour l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui est mon domaine, et dans le domaine de l'entreprise, d'une manière générale. Moi, j'ai recruté beaucoup de gens dans ma vie, et jamais recruté quelqu'un parce que c'est un homme, ou pas parce que c'est une femme. Enfin, tout ça, je trouve ça...
Oui.
Ce combat, franchement, en 2023, c'est quand même un petit peu honteux. Je dis honnêtement aussi que souvent, je trouve que les femmes sont de mauvaises ambassadrices de leur cause à elles. Mmh. Parce que, voilà, je trouve que ce combat est mal mené. Il faut que les femmes y aillent, se portent candidates, qu'elles rentrent dans les instances, qu'elles rentrent à la chambre de commerce, qu'elles rentrent à la chambre des métiers, qu'elles prennent des postes au conseil d'administration, qu'elles prennent des responsabilités des entreprises. C'est elles qui peuvent le faire et personne d'autre. Vous l'avez dit tout à l'heure, je suis vice-président de la CPME nationale. Moi, je suis très fier qu'il y ait 12 vice-présidents à la CPME nationale. 6 hommes et 6 femmes. Mais vous savez pourquoi il y a 6 femmes? Parce qu'on a trouvé 6 femmes compétentes.
C'est ça.
Exactement. Et on a pris 6 femmes parce qu'il fallait mettre 6 femmes. Donc faut arrêter ça. Alors, après, voilà, moi je suis ce que je suis. Je suis un homme simple, un paysan à l'origine. Un homme qui essaie d'aider les autres, en tout cas dans ce mandat de, notamment dans ce mandat de président de CCI. J'essaie d'aider un certain nombre d'entrepreneureux et d'entrepreneurs. Et alors effectivement, il s'est passé un truc l'autre jour. Mon ami Nadine Abondo, de Févier d'Or, qui est une entreprise que vraiment j'adore, à Saint-Ouen-l'Aumône, une femme d'un courage avec son mari, ils ont monté cette boîte, ils importent des fèves de cacao
produits
par la famille,
excellents, oui.
Qui viennent du Cameroun, ils font des produits excellents, ils ont une entreprise, une dizaine de salariés qui sont tous dans des situations, entre guillemets, de handicap, enfin franchement, et je les aide depuis le début, je suis pas le seul, nous les aidons depuis le début, enfin je crois que je les aide pas mal. Aujourd'hui, ils ont ouvert une boutique au centre commercial des Trois Fontaines. Je crois que j'y suis un petit peu pour quelque chose. Ils ont été à un moment donné au Leclerc à Saint-Ouen-l'Aumône. J'y suis un petit peu pour quelque chose. Ils ont été au Cora d'Hermont. J'y suis un petit peu pour quelque chose. Et il se trouve qu'il y a 8 jours, Nadine met une photo d'elle à l'Élysée avec le président Macron et une tablette de chocolat en main. Et elle la met très fière. Et moi, je lui réponds, je suis très fier de ma protégée. Nadine a mon dos. Et effectivement, un consultant du Nord qui répond, mais monsieur Kuchli, comment pouvez-vous utiliser ces termes aussi sexistes et paternalistes? Je les assume complètement, ces termes. Parce que je crois que c'est fait.
Oui,
d'abord,
oui.
Je pense que si quelqu'un n'est pas content, c'est peut-être Nadine Amondo qui aurait pu dire... t'es pas mon père,
oui,
elle l'a pas dit,
ouais.
elle a plutôt répondu qu'elle était contente du soutien que je lui apporte. Mais ça traduit quand même...
Un état d'esprit.
Un état d'esprit, une société dans laquelle on vit, où aujourd'hui chacun se prend pour un gendarme. Enfin, ce monsieur que je connais ni d'Adam ni d'Ève, qui se présente comme un consultant, moi je lui conseille fortement de désintéresser de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a du boulot dans la bêtise naturelle, et je pense que là il a sa place, et puis qu'il s'occupe surtout de ses oignons. Quoi. En tout cas... ce que j'ai dit l'autre jour dans cette manifestation du 8 mars en l'honneur des droits de la femme, c'est que si j'avais dit la même chose de mon ami Laurent Pillard, président de la CPME 95, ou de mon ami Frédéric Anfray de 60 000 rebonds, si j'avais dit mon protégé, personne n'aurait dit c'est paternaliste ou c'est sexiste. Donc je trouve ça dommage. Et c'est le chemin qui nous reste à faire. Mais vraiment, si j'ai un message à passer aux femmes chefs d'entreprise, c'est allez-y. Mettez-vous en avant, faites le job. Les femmes sont, la femme est l'avenir de l'homme, hein, a dit l'autre. Mais les femmes sont beaucoup plus résilientes, sont beaucoup plus motivées. Moi, je croise plein de jeunes qui ont des projets, tu sais, d'entreprise. Alors, il y a des garçons extraordinaires, hein. Il y a des garçons extraordinaires qui ont des projets, etc. Mais alors, les filles, elles n'ont jamais le morceau. Elles ont une motivation, elles ont une capacité de résilience. Elles rebondissent, c'est le terme, malheureusement, du jour. Et moi, je les admire et je les pousse. Et vous avez parlé tout à l'heure de cette journée qui est organisée entre autres par les EF, hein,
oui,
Entrepreneuriat
EF,
Féminin,
oui.
qui est une association qui émane de la CPME nationale. Savez-vous qui est le référent national à la CPME pour les EF? C'est moi. Donc, c'est vous dire que j'essaye d'aider les femmes chefs d'entreprise et vraiment. Moi, j'adore être à leur contact, parce qu'encore une fois, je trouve qu'elles ont une résilience, une motivation, une capacité d'innover. Elles passent des messages différents, elles sont voilà. Et mesdames, allez-y, jouez sur vos atouts, allez-y, créez vos boîtes, montez en grade. C'est comme ça que vous allez gagner ce combat.
Oui, mais merci Pierre. Hein. C'est vrai que on sait heureusement qu'il y a des hommes qui soutiennent les femmes. Vous en faites partie, mais vous avez bien résumé la situation à travers votre anecdote. Oui, il reste quand même beaucoup de choses à faire, même si vous dites que les femmes s'y prennent mal. Je crois qu'il y a aussi tout un contexte qui fait que voilà, il faut se bagarrer. Je voudrais en profiter pour justement, puisqu'on a cette petite parenthèse sur les femmes, l'occasion de profiter de mettre à l'honneur Anne-Sophie Gaudry du restaurant Le Chiquito qui a gardé son étoile, Le Chiquito à Méry-sur-Oise. Et j'en parle d'autant mieux avec vous, Pierre, parce que Anne-Sophie Gaudry est issue de l'école Ferrandi.
Alors moi, effectivement, je voudrais lui rendre hommage parce que lorsqu'un restaurant étoilé change de propriétaire ou de cuisinière, en général, il perd son étoile.
Oui.
Et elle a réussi vraiment un exploit, c'est de conserver l'étoile. Elle travaillait déjà dans le restaurant avant, mais normalement, elle perdait l'étoile. Elle a réussi à démontrer son savoir-faire. Moi, je voudrais féliciter...
Anne-Sophie Gaudry.
Anne-Sophie Gaudry. Je voudrais féliciter aussi Nalouen Deno de l'Orchidée à Pontoise, puisque ce sont les deux restaurants étoilés que nous avons dans le Val-d'Oise. Je suis très fier d'avoir ces deux restaurants étoilés dans le Val-d'Oise. J'espère qu'elles sont labellisées Made in 95, sinon il faut qu'elles le fassent en vitesse. Hein. Mais on en a parlé un petit peu tout à l'heure, je pense qu'on va en reparler un petit peu plus tard. Vous savez qu'il y a ce projet Agoralim qui arrive dans le Val-d'Oise. L'alimentation propre, l'alimentation de demain, c'est un thème qui va devenir un thème de territoire pour tout le Val-d'Oise. Et avoir de telles tables, il y a les étoilés, il y a tous les autres. Hein. Eh bien, moi je suis très fier d'avoir ces tables-là dans le Val-d'Oise, parce que je crois que l'avenir est à... elle, dans le cas présent, et à eux, tous nos restaurateurs, avec les projets qui sont en train d'arriver, où l'alimentation de demain va être un projet de territoire, c'est-à-dire pas simplement autour du triangle de Gonesse, de Goussainville, mais sur tout le Val-d'Oise, et peut-être
même
les départements d'autour, puisqu'on dit entre 150 et 200 km, à l'est, au nord et à l'ouest du triangle de Gonesse.
De plus en plus de chefs en parlent. Hein. J'ai lu récemment une interview de Thierry Marx aussi qui insiste sur ces projets.
Vous allez voir quand ils vont tous découvrir où est le Val d'Oise.
Ouais. Merci Pierre. Je vous propose de faire une nouvelle pause avant de continuer sur Agirès Développement. À tout de suite.
Shakare 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 petaranore rindimanam Shakare 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 petar di hamanchimanam Shakare 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 petaranore rindimanam Shakare 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 petnam rodem kamoranna
FM Radio, c'est l'économie en direct en présence de mon invité du jour Pierre Cuchely, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise et avec lequel je ne suis pas certaine que les 90 minutes de l'émission suffisent pour entendre tout ce qu'il nous a dit.
Si vous voulez, on peut faire une journée spéciale un jour. Hein. Moi, je tiens 24 heures sans problème.
Alors, parmi elles, Pierre, je sais que vous vouliez nous parler de Agirès Développement, une association créée en 1991 et qui compte 80 établissements de l'enseignement supérieur, dont la majorité sont membres de la conférence des grandes écoles.
En fait, aujourd'hui, nous sommes à 100.
100, carrément.
Voilà, donc effectivement, Agir Développement a été créé en 1991. L'idée au départ, c'était d'aider ces grandes écoles à récupérer la taxe d'apprentissage. Aujourd'hui, avec la réforme, notre mission et notre statut a largement évolué. On fait des tas d'opérations, notamment pour aider les grandes écoles à travailler entre elles, à échanger sur les bonnes pratiques, à faire la promotion de l'enseignement, à faire le rapprochement entre ces grandes écoles et les entreprises. Moi, j'en étais le trésorier pendant 5 ans. Là, suite à la démission du président Frédéric Verne, qui a été aussi mon prédécesseur à la CCI du Val d'Oise et à qui je rends hommage aussi ce matin. Donc je lui ai succédé au mois de novembre dernier. Aujourd'hui, nous avons de nouvelles priorités supplémentaires, on va dire, notamment de rapprocher les grandes écoles des TPE-PME, parce qu'aujourd'hui, les grandes écoles travaillent souvent avec les grandes entreprises. Il faut aussi, en France, 99% des entreprises sont des TPE-PME. Moi, en tant que vice-président de la CPME nationale, je pense que je suis bien placé pour opérer, pour essayer d'opérer, en tout cas pour faciliter ce rapprochement. Nous avons l'une des premières comment dire, opérations que nous faisons sous ma nouvelle présidence, c'est d'emmener un certain nombre de ces grandes écoles au mois de mai au Canada, à Montréal, Sherbrooke et, et Québec, pour leur montrer ce que font les Nord-Américains comme coopération entre les grandes écoles et des entreprises, on va dire, soit de taille intermédiaire, soit des PME. Donc ça, c'est parti. Il y a une vingtaine de grandes écoles qui nous rejoignent.
Ouais, il y a toujours, il y a toujours beaucoup à apprendre hein, en allant à l'étranger.
Et puis, rien ne vaut le voir de ses propres yeux, toucher de ses propres mains. Et donc là, on va faire une mission extrêmement intéressante. Donc voilà, Agir Développement, ce sont toutes les écoles qui offrent des formations au-dessus de 3, enfin Bac plus 3 et au-dessus. Toutes les plus grandes écoles prestigieuses y sont, dont l'ESSEC dans le Val-d'Oise, mais d'autres qui nous rejoignent. C'est une, alors pour moi, c'est un monde un peu différent, hein, puisque moi je viens vraiment de la PME, j'ai pas fait des études extraordinaires non plus, donc pour moi c'est assez sympathique d'évoluer dans ce monde-là, et je pense que il y a plein de choses à faire.
Oui.
Il y a plein de choses à faire. Ici, dans le Val-d'Oise, avec CY, les SEC, les CIT et toutes les grandes écoles que nous avons sur le territoire, Ferrandi à Saint-Gratien, Subdevante à Enghien, etc., et toutes les autres. Il y a plein de choses à faire. Et c'est une nouvelle mission complémentaire, supplémentaire, mais que j'aborde avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de motivation.
Et puis même, peut-être même de sérénité, parce que vous avez compris que ça fonctionnait bien.
Oui, non, mais ça fonctionnait bien avant que j'arrive, donc j'ai essayé que ça fonctionne.
Oui, mais je veux dire, ça continue, quoi.
Bien sûr, il y a une super équipe. Franchement, il y a une équipe de 4 collaborateurs qui sont à Paris, qui travaillent à 100% sur Agir Développement. Et franchement, je leur rends hommage ce matin parce qu'ils font un travail formidable. Il y a un conseil d'administration constitué de représentants de très belles grandes écoles. Et je précise, hein, c'est une Agir Développement. Comme le comité d'échange franco-japonais, je crois, dont on va parler tout à l'heure, c'est pas un truc valdoisien ou francilien, c'est national.
C'est national, absolument. Oui, c'est vraiment l'opportunité d'offrir des débouchés aux jeunes de tout le territoire hein, pour qu'ils puissent évoluer. Et je voudrais en profiter parce qu'il y a la cinquième édition des trophées Agir Synergie c'est le 22 juin. Donc ça se passera à Paris dans le 15e arrondissement tout près de la Tour Eiffel. Donc voilà, c'est le go vient d'être donné pour cette cinquième édition qui récompensera encore cette année la qualité des relations école-entreprise, précisément.
Tout à fait.
Précisément. Vous avez l'intention d'y être, Pierre ?
En général, en tant que président d'Agir
vous
Développement,
êtes disponible.
Nous sommes co-organisateurs et donc forcément, je devrais y être. Un jour, il faudra qu'on fasse une émission aussi sur la Tour Eiffel, je vous expliquerai.
Ah, bah, écoutez.
Elle porte mal son nom parce qu'elle ne devrait pas s'appeler Tour Eiffel.
D'accord.
Mais voilà, et bien sûr, avec beaucoup de fierté. Et puis, ces trophées, c'est pour nous l'occasion, effectivement, de mettre en avant les belles entreprises qui offrent leur chance à des étudiants méritants.
Une nouvelle façon aussi de faciliter le développement économique territorial.
Tout à fait.
Merci Pierre pour ce clin d'œil à Agir Développement. Une nouvelle pause, hein, comme ça après on va parler d'un sujet dont je sais que ça vous tient à cœur et c'est pour ça qu'on l'a mis au programme, c'est le CEFJ. À tout de suite.
Voici mon dernier souffle, voici mes derniers mots. Who do you think you are? I know your heart is in your cold. Et là tu pars, moi je pleure, car t'as brisé mon cœur. Oui, mon cœur. Hey! Est-ce notre dernière ronde? Où sont-nous pour toujours? I don't know who I am. Oui, j'entends encore tes mots doux. Voice in my head, can't ignore. I hear your name encore, encore. Et encore, j'ai fait le tour, c'est toi, c'est tout. Ta voix résonne jour après jour. Fini les pleurs, je prends ma chance. Ce soir, on danse. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. chaque seconde. Laisse la musique m'emporter. I'm gonna dance until the moon goes down. I go round and round. Et toi, quand tu m'as vu danser, t'as voulu m'embrasser. Mais rappelle-toi, c'était ton choix. Est-ce que t'as déjà oublié? Boys in my head, can't ignore. I hear your name encore, encore et encore. J'ai fait le tour, c'est toi, c'est tout. Ta voix résonne jour après jour. Fini les pleurs, je prends ma chance. Ce soir on danse. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. La da da. Voici mes derniers mots.
Radio EDFM, c'est l'économie en direct et à 8 jours du salon Effervescence dont nous avons longuement parlé en début d'émission, nous allons aborder maintenant un sujet qui vous tient à cœur, Pierre. C'est le CEFJ, donc Pierre Kuchli qui est mon invité, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, vice-président de la CPME nationale, de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France et donc du CEFJ, comité d'échange franco-japonais, dirigeant de LSI, le savoir industriel. Alors, ce sujet, le CEFJ, dont on voit beaucoup d'annonces hein, sur les réseaux sociaux régulièrement, mais voilà, on n'en sait pas grand-chose. En tout cas, chez IDFM Radio, on n'en sait pas grand-chose.
Eh bien, je vais essayer d'éclairer votre lanterne, si vous m'autorisez de m'exprimer ainsi. Et donc, le comité d'échange franco-japonais, c'est un comité qui est national déjà, hein. Bien que créé par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris à l'époque. C'est un comité qui fête ses 26 ans cette année. Nous avons fait une grande fête l'année dernière pour les 25 ans de ce comité. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est de faire une passerelle économique, bien sûr, mais aussi culturelle, amicale, dans tous les domaines, entre la France et le Japon. C'est-à-dire que tous les chefs d'entreprise français qui sont intéressés par le Japon, japonais qui sont intéressés par la France, qu'ils soient d'ailleurs en France ou au Japon, sont les bienvenus au comité d'échange franco-japonais. Aujourd'hui, nous avons environ 170 adhérents, environ 50% de Japonais, 50% de Français, quelques grandes entreprises, mais aussi quelques PME, par exemple Ecolami, qui est à Pontoise, qui est une société que vous devez connaître, hein, qui fait de la production de films vidéo, qui est un de mes adhérents, et qui est d'ailleurs membre aussi du conseil d'administration Angel Nguyen, qui est le dirigeant et qui est extrêmement actif, que je suis très fier d'avoir avec moi. Donc ce comité, il a été créé à l'époque pour aider notamment des entrepreneurs français qui avaient envie d'aller au Japon et qui ne savaient pas comment faire. Je vais vous citer l'exemple de mon ami Charles Nati. Oui. Charles Nati est le fondateur avec Pierre Hermé de l'entreprise Pierre Hermé. Et lorsqu'ils ont créé l'entreprise, pour différentes raisons juridiques, il fallait qu'ils le fassent ailleurs qu'en France. Et ils se sont dit, pourquoi pas tenter le Japon où il y a une place pour la pâtisserie française.
D'accord.
Et en fait, il ne savait pas à qui s'adresser. Donc Charles Nati est allé à la Chambre de commerce de Paris et il a dit, voilà, j'ai envie de monter une boîte au Japon, comment je fais? Et il est arrivé au moment de la création de ce comité franco-japonais, d'échange franco-japonais, et il est le troisième adhérent, je crois. Et il est toujours là. C'est vous dire que...
Depuis 26 ans,
c'est
vous
dire
bravo.
C'est vous dire qu'il y est attaché et qu'aujourd'hui, Pierre Hermé, c'est, je sais plus, une trentaine de points de vente au Japon.
Oui, avec ses fameux macarons.
Je suis triste de le dire, mais je crois que Pierre Hermé est plus connu que Pierre Kuchli au Japon.
Ah.
C'est quand même vraiment...
j'allais dire qu'il était plus connu que Charles.
C'était une blague que je faisais, vous me connaissez. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait plein de choses. Alors là aussi, il y a une petite équipe qui est dynamique, avec trois personnes. On fait tout le temps des événements. Alors, on a je vous l'ai dit, hein, il y a 170 adhérents, des Japonais et des Français. Alors, les adhérents connus, mais je l'ai cité Pierre Hermé, mais il faut que j'en cite d'autres. Vous avez LVMH, vous avez Renault, vous avez Toyota, Vous avez Kering, vous avez plein d'entreprises dans des domaines différents. C'est ça qui est intéressant aussi. Et,
oui, toutes des entreprises qui ont vu l'opportunité de pouvoir développer leur...
Oui, et puis qui amènent des choses.
Oui,
ils viennent pas seulement pour prendre des choses. Mmh. Ils apportent leurs connaissances, leur réseau, leur culture. On a eu la chance de visiter, il y a quelques semaines, l'usine Toyota de Valenciennes, dans des conditions privilégiées, hein, pas dans des conditions touristiques. Nous allons visiter bientôt les champagnes Laurent Perrier. Nous allons visiter aussi Renault à Douai, qui va nous montrer là où ils fabriquent les premiers véhicules électriques. Donc il y a vraiment des choses intéressantes. Il y a tous les mois des réunions sur des thèmes. L'autre jour, c'était aiguiser les couteaux japonais. Vous savez que les couteaux japonais sont au moins aussi bons que les couteaux français. Et c'est les deux meilleurs couteaux du monde. Il y a des réunions sur le saké, il y a des réunions sur le champagne, je l'ai dit. Et souvent, les adhérents nous accueillent. Donc, c'est très intéressant. Mon conseiller spécial, donc moi, je suis le président du comité d'échange franco-japonais. Dans les statuts, vous le verrez à effervescence, c'est mon ami Dominique Ressino, le président de la Chambre de commerce de Paris Île-de-France.
Oui.
C'est lui le patron dans les statuts. Comme il ne peut pas tout faire, le pauvre homme, il a un président délégué. Il a eu la mauvaise idée de me confier ce mandat, comme son prédécesseur l'avait fait. Moi, ça fait maintenant 6 ans que je m'occupe de ce comité. J'ai un conseiller spécial qui s'appelle Louis Schweizer. C'est l'ancien patron de Renault. Alors, je le dis toujours, ça m'amuse beaucoup. Quand il arrive, il dit bonjour, monsieur le président. Et moi, je réponds bonjour, Louis. C'est complètement idiot, mais ça me fait rire. Et nous avons comme vice-président les deux ambassadeurs, c'est-à-dire l'ambassadeur du Japon en France et l'ambassadeur de France au Japon. Et nous avons des partenaires prestigieux, comme la Maison de la Culture du Japon en France, comme la Chambre de commerce française au Japon, etc. Et on fait énormément de choses. Et dans ce Val d'Oise, pourquoi Dominique Ressino et son prédécesseur m'ont confié ce mandat? Parce que il se trouve que je suis président de la Chambre de commerce du Val d'Oise, que le Val d'Oise, non seulement est le département le plus jeune de France, mais aussi c'est le département où il y a le plus d'entreprises japonaises en France. Il faut savoir que sur 600 entreprises, j'ai pas le chiffre exact, hein, mais sur entre 500 et 600 entreprises japonaises sur le territoire français, vous en avez plus de 10% qui sont dans le Val d'Oise. C'est juste énorme.
Et comment l'expliquez-vous,
cet
engouement?
Alors, c'est par le travail excellent qui est fait, notamment par le département du Val-d'Oise et son bras armé, ou son ex-bras armé, puisque aujourd'hui il est plutôt régional, le CEVO, le Comité d'expansion économique du Val-d'Oise, hein, présidé par mon ami Philippe Sueur, et dirigé par mon autre ami Jean-François Benon, qui ont fait un travail remarquable, et leurs prédécesseurs, puisque nous avons fêté, je crois, il y a quelques années, les 30 ans du bureau du CEVO à Osaka. Donc en 30 ans, ou 34 ans maintenant, ou 33 ans, on en fait du travail. Et je pense qu'il y a vraiment un lien fort qui se fait entre le Val d'Oise et une partie du Japon, en tout cas, où nous sommes actifs avec le département du Val d'Oise. C'est Osaka, c'est Nagoya, c'est Mie. Ce sont des endroits où des délégations du Val d'Oise vont régulièrement. Il y en a une qui repart au mois de mai ou début juin, avec la présidente du département et des représentants d'entreprises dont je devrais être. Et nous allons visiter des entreprises, nous allons visiter des préfectures, nous allons visiter différentes autorités. Après, donc ça fait ses fruits. Après, vous savez, les Japonais, c'est un peu... je ne sais pas si les Français font ça, mais les Allemands font ça aussi. Quand vous avez un Japonais qui s'installe quelque part, souvent, les autres regardent et vont se mettre pas loin. C'est pour ça que vous avez des concentrations en Alsace, vous avez des concentrations en Rhône-Alpes. Mais il n'y a aucune concentration comme dans le Val d'Oise. Que vous alliez de Roissy jusqu'ici sur Cergy, vous avez plein d'entreprises japonaises et dans tous les domaines réunis. Malheureusement, dans mes 170 adhérents, j'en ai pas assez qui viennent du Val d'Oise. Et je lance un appel ce matin, une fois que vous êtes
comme le Made in 95.
Ami japonais qui est installé dans le Val d'Oise, faites-vous labelliser Made in 95 d'abord et ensuite adhérez au comité d'échange franco-japonais. C'est pas cher, c'est très sympa. On a des relations privilégiées avec les ambassades, avec les ministères, avec les gens du Quai d'Orsay, hein, etc. Et c'est vraiment... celui qui en parle le mieux, c'est Louis Schweizer. Louis Schweizer, chaque fois qu'il vient, et il vient régulièrement, il nous dit la passerelle entre la France et le Japon, cherchez pas, il n'y en a qu'une, c'est le comité d'échange que je connais.
Un réseau à la pointe de l'actualité politique et économique, et avec une programmation événementielle qui répond en temps réel aux préoccupations des membres.
Oui, et puis c'est très ouvert, c'est très diversifié. Nous avions fait, avant le Covid, et malheureusement ça a un peu tué le truc, nous avions fait à la station F une rencontre entre des start-up françaises et japonaises et des gros investisseurs. Donc nous avons des Français, des start-upers français et des start-upers japonais qui sont venus pitcher devant des grands patrons pour leur expliquer leur projet, pour chercher des investisseurs. Et nous avions là des dirigeants de grandes entreprises, notamment c'est fait sous le patronage de Anne Lauvergeon. Et ça a eu un succès fou. Enfin, moi quand je suis arrivé là-bas, franchement, alors moi je m'occupe pas de l'organisation des événements. Hein. Lorsque je suis arrivé à la station, j'ai jamais été. J'arrive, je vois au loin un attroupement de monde. Puis je dis à la personne à l'entrée, je dis, je cherche l'événement du comité d'échange franco-japonais. Il ne cherchait pas, c'est là-bas où il y a tout le monde. Et je suis arrivé, ils m'ont dit, jamais vu autant de monde. Il y avait plus de 200 participants qui étaient présents, plus des visios. Et ça a eu un succès fou. La deuxième année, malheureusement, à cause du Covid, on a oui. été obligé de le faire en visio, mais ça a eu un succès fou aussi. Et on devait faire une troisième édition au Japon. Et là, honnêtement, avec la Covid et les problèmes financiers qui ont découlé aussi, et les restrictions de voyage, on n'a pas pu le faire. Et aujourd'hui, on réfléchit comment relancer ce truc-là, peut-être sur une manière un petit peu plus modeste. Ce que je veux dire,
oui, c'est vraiment... la question que j'allais vous poser. Vous avez prévu d'y aller, là, bientôt?
Alors, moi, j'ai prévu d'y aller. Normalement, je devrais y aller deux fois cette année au Japon. Une fois avec le département du Val d'Oise, lors du déplacement de la délégation qui a lieu là début juin, et normalement je devais y aller pour le comité d'échange franco-japonais en fin d'année, notamment à l'occasion du dîner de gala de la chambre de commerce française au Japon, dont cette année la région qui va être chaque année, ils mettent en avant une région française, et cette année ça sera la région Île-de-France qui sera mise en vedette avec j'espère la présence de la présidente Valérie Pécresse et sa vice-présidente en charge du développement économique, Alexandra Dublanche. Et c'est une soirée avec 1000 personnes.
Hein. Ah oui,
Il y a 1000 chefs d'entreprise français et japonais qui sont au Japon, qui viennent et qui sont des personnes d'influence, pour un dîner qui est présenté en général par un chef étoilé français. Alors je ne sais pas qui c'est, hein, parce que moi, je ne m'occupe pas de l'organisation de ce truc-là. Mais en tout cas, voilà, je vais y aller deux fois, j'espère, cette année au Japon.
Peut-être une ouverture pour les prochaines entreprises dans le Val d'Oise. Pourquoi pas,
c'est le but.
Merci Pierre, merci encore pour cette belle présentation du comité.
Je suis vraiment
franco-japonais.
C'est un comité qui me tient à cœur.
Oui.
Parce que d'abord j'y passe quand même pas mal de temps. C'est assez amusant. Je vais quand même vous raconter une anecdote. Vous savez que j'aime bien raconter des anecdotes. Oui. Lorsque je suis devenu président délégué de ce comité. Vous me connaissez, moi je suis sérieux, et puis je fais des blagues de temps en temps, voilà quoi. Et la directrice générale, madame Tominaga, parce qu'elle m'a vu la première fois, elle m'a dit, il y aura un problème. Ah, j'ai dit, bon, lequel? Elle dit, vous savez, vous faites tout le temps des blagues, et tous les Japonais, ils sont sérieux. J'ai dit, on va essayer, moi je vais essayer de ne pas faire de blagues, mais j'y arriverai pas, donc on verra bien quoi. Puis trois mois après, elle m'a dit, il faut que je te dise, mes Japonais, ils t'adorent.
Donc, malgré les blagues.
Donc ils ont fait des progrès dans la connaissance de la culture française, ou en tout cas celle du président délégué du CEJ. Voilà.
Merci Pierre pour cette présentation encore du comité d'échange franco-japonais. Nouvelle pause et puis on termine avec un clin d'œil aussi sur la dimension touristique du Val d'Oise et puis peut-être les Jeux Olympiques. On en dit quelques mots. À tout de suite.
Tu sais, je suis pas prête à te voir grandir. J'ai peur de ce que tu vas devenir. Parce que je sais ce que c'est d'avoir mal. Et je pourrais pas t'empêcher d'avoir mal. Tu sais, je veux que tu sois heureuse. Et je veux te voir tomber amoureuse. Et même si je vais te protéger, parfois je vais devoir te voir tomber. Et si les filles te semble fragile, sache que t'as en toi une force qui se déploie. Comme toutes les filles, ce sera pas facile, mais moi je crois en toi. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer, et j'apprends tous les jours à devenir douce. Je crois que j'ai pas fait le tour, j'attends que ça pousse. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. Maintenant, ce que j'espère de tout mon cœur, c'est que toi, tu feras pas la même erreur. Je sais que c'est pas simple de croiser les miroirs, que tu vas parfois pleurer dans le noir. Je l'ai vécu mille fois avant toi, c'est encore à l'intérieur de moi. Et si c'est dur de pas regarder les autres sans te sentir oublié, il faut que tu saches que je te comprends, que grandir parfois ça prend du temps. Et si les filles te semblent fragiles, sache que t'as en toi une force qui se déploie. Comme toutes les filles, ce sera pas facile, mais moi je crois en toi. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer, et j'apprends tous les jours à devenir douce. Je crois que j'ai pas fait le tour, j'attends que ça pousse. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. Maintenant, ce que j'espère de tout mon cœur, c'est que toi tu feras pas la même erreur. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et ce matin, un spécial Made in 95, toujours en compagnie de Pierre Cuchely, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, vice-président de la CPME nationale en charge des territoires, de la CCI Paris-Île-de-France et du CEFJ, comité d'échange franco-japonais, dirigeant de LSI, le savoir industriel. Pierre, pour les dernières minutes de cette émission, quelques mots sur le développement de la dimension touristique du Val d'Oise, à laquelle vous tenez énormément, et puis aussi un clin d'œil, je l'ai dit, puisque l'année prochaine, il y aura les Jeux Olympiques de Paris.
Oui, alors déjà, je vais peut-être commencer par les Jeux Olympiques.
Oui.
J'ai bien entendu un regret, c'est qu'il n'y ait aucun événement sportif lié aux Jeux Olympiques qui ait lieu dans le Val d'Oise. Je pense que, par exemple, on aurait pu avoir les épreuves de tir. Et je trouve que c'est un peu dommage que Saint-Vite n'ait pas été retenu. Je le regrette, mais ceci étant, le département du Val d'Oise a fait des tas d'efforts pour profiter de la dynamique de ces Jeux Olympiques. Et je l'en félicite et j'en suis très fier. Il va se passer plein de choses qui sont liées aux Jeux Olympiques dans le Val d'Oise. Je me félicite que nous allons avoir des médailles.
Oui.
Jacqueline, je vous annonce, le Val d'Oise va avoir des athlètes qui vont avoir des médailles, et des médailles d'or, puisque nous accueillons la délégation américaine. C'est des faces à Aubonne, et au moins avec les Américains, on est sûr d'une chose, c'est qu'ils vont ramener des médailles.
Il y a au moins ça, oui, c'est vrai.
Donc voilà, ce que j'espère, c'est qu'effectivement aussi, ces Jeux Olympiques et la présence de cette délégation et peut-être d'autres acteurs qui vont venir s'installer provisoirement dans le Val d'Oise, ça va profiter à nos entreprises. Hein, parce que si c'est juste pour venir dormir là, ça serait dommage.
Oui.
Donc il faut vraiment que les entreprises du Val d'Oise, en Val d'Oise, mais aussi dans le reste de l'Île-de-France, puissent profiter des marchés, que ce soit sur les déplacements, sur les hébergements, sur la restauration, sur toutes sortes de prestations, les traductions, etc. J'espère que les acteurs du Val d'Oise auront des retombées intéressantes sur ces Jeux Olympiques. J'espère aussi que ça va effectivement donner un petit coup supplémentaire au tourisme, parce que le Val d'Oise, moi je le répète toujours, moi je ne suis pas valdoisien. Je suis né en Lorraine, dans une région qui est beaucoup plus touristique que ne pourraient le penser ceux qui ne connaissent pas. Mais vous le savez, je me suis attaché profondément depuis 25 ans que je suis dans le Val d'Oise. Je me suis attaché profondément à ce département. Et je trouve qu'il a des arguments extraordinaires en termes de tourisme. Je regrette que les gens ne s'en rendent pas compte. Même les valdoisiens. Souvent, ils ne se rendent pas compte des atouts que nous avons. Je salue les efforts, là encore, du département du Val d'Oise, qui met de plus en plus en avant les atouts de ce département. Je salue l'action de Julien Bachard, qui est le maire de Saint-Gratien, qui est vice-président en charge du tourisme au département, et de son équipe, qui font des efforts supplémentaires pour que le Val d'Oise soit reconnu comme une destination touristique. Moi, vous savez, je suis à l'origine d'un village du Val d'Oise au salon du Made in France, que nous avons fait pendant 2 ans et que nous allons refaire en 2023, où on met en avant non seulement des entreprises et des produits made in 95, mais aussi le tourisme dans le département. Et nous avons de plus en plus, cette année, enfin en 2022, pardon, la dernière édition, le stand du Val d'Oise a été un des stands les plus visités du Salon du Vinifrant.
Ah, bravo.
C'est un stand qui était magnifique. Alors, il était
oui, qui était encore plus grand que la première année, je crois.
Juste deux fois plus grand. Mmh. Et je recherche des entreprises qui viendraient avec nous, qui ont vraiment des produits emblématiques du Val d'Oise, et je lance un appel ce matin pour qu'ils nous rejoignent. Donc, je suis vraiment attaché au tourisme dans ce département. Et là encore, je parle du village du Maine 95, je remercie le département du Val-d'Oise, la ville d'Anguin, l'office du tourisme de Roissy et quelques autres qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus et qui ont permis que l'on puisse faire ce village du Maine 95. On a un département extraordinaire, alors tout le monde vous parle d'Auvers-sur-Oise, de Royaumont, de La Roche-Guyon, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein, même à Argenteuil, il y a de plus en plus d'atouts touristiques. Je vous conseille d'aller voir la maison de Claude Monet, etc. L'Isle-Adam, je l'ai dit, qui est la ville, une des villes où il fait le mieux vivre en France. Pontoise, qui est une ville qui a des atouts magnifiques. Je vais m'arrêter là parce que je vais en Vexin.
Oui, oui.
Mais dans le Vexin, chaque village du Vexin a des choses à voir. Chaque ville du Val d'Oise a des choses à proposer. Et là encore, nos commerçants, nos hôteliers, alors il n'y a pas assez d'hôtels dans le Val d'Oise, il n'y a pas assez de gîtes dans le Val d'Oise, si on développe le tourisme. Mais si on développe le tourisme, les propositions de gîtes, d'hébergement, de bed and breakfast, de Airbnb et je ne sais quoi, vont se multiplier.
Oui.
Donc il faut vraiment mettre en avant les atouts de ce département. Moi j'en ai assez que les gens qui vont en Normandie, que les gens qui vont en Baie de Somme, que les gens qui vont en Angleterre, passent dans le Val d'Oise et ne s'y arrêtent pas. On a vraiment des arguments à leur montrer. Bon, vous le savez, je pense que vous le savez, Jacqueline, une fois par an, j'organise une sortie moto des patrons de...
En juillet.
Des patrons de PME du Val d'Oise.
Ouais.
La prochaine édition aura lieu le 17 juin. Avec un départ à Auvers-sur-Oise. Chaque année, nos patrons motards qui participent, fait, alors franchement, le circuit, il est tous les ans différent, mais enfin, grosso modo, c'est quand même... voilà, c'est, les bases sont les mêmes. Eh bien, chaque année, on découvre des choses qu'on n'avait pas vues avant, y compris les gens qui habitent dans le Val d'Oise.
Mmh.
Donc, vraiment, on a un département qui est magnifique, mettons-le en avant. C'est pour ça, le Made in 95, c'est aussi ça.
Mmh.
C'est aussi le tourisme, c'est aussi comment dire... C'est aussi l'éblouissement, enfin le rayonnement des départements du Val-d'Oise. Alors on me dit, certains disent, faudrait pas dire made in 95, faudrait dire fabriqué en 95, faudrait pas dire made in 95, faudrait dire made in Val-d'Oise, fabriqué en Val-d'Oise.
Oui.
On s'en fout.
Non.
Je veux dire, quelque part, à un moment donné, il y a eu un terme qui a été choisi, c'est made in 95.
Il faut s'y tenir.
Qui a un avantage, c'est qu'il est court. Donc il est court, donc il est facilement utilisable. Il faut l'utiliser. Utilisons-le au maximum, tous les acteurs. Il faut utiliser Made in 95, Made in 95. Il faut le rabâcher. Et il faut le rabâcher, notamment quand on est en dehors du Val d'Oise. Et il faut attirer les gens. Moi, de par mes actions en dehors du Val d'Oise, que ce soit la CPME nationale, que ce soit ailleurs, au CEFJ, je parle partout où je suis. Quand je suis au Japon, je parle du Val d'Oise, du tourisme en Val d'Oise.
Oui, on sait que vous êtes...
Et si vous saviez les retours que j'ai de gens qui disent « Ah ben du coup, on t'a écouté, on est allé dans le Val d'Oise, on a été... on a fait la route des Crêtes au-dessus de la Roche-Guyon. Qu'est-ce que c'est beau !» Ils ont été 20 fois au château de Versailles, 20 fois au château de Rambouillet, 20 fois au château de Fontainebleau. Un jour, il faut aussi venir dans le Val d'Oise.
Ouais.
Et quand ils viennent, franchement, ils reviennent.
Ils ne sont pas déçus.
Et ils ne sont pas déçus.
C'est clair. Pierre, une nouvelle fois, vous nous faites une belle démonstration de cet accompagnement omniprésent qu'est la CCI, un véritable ADN pour regrouper tous les services dont a besoin une entreprise et puis le département du Val d'Oise. Merci infiniment. Merci de vos efforts inlassables pour valoriser le territoire.
Je ne suis pas tout seul, Jacqueline. Je voudrais vraiment dire que le Val d'Oise a aussi une chance. C'est que l'ensemble des acteurs économiques, on parlait de la CCI, j'en suis le président et je suis fier d'en être le président. Mais avec la CMA, nous avons de très bonnes relations et nous travaillons ensemble. Avec la Fédération française du bâtiment, nous travaillons ensemble, nous entendons bien. Avec la CPME du Val d'Oise, bien entendu, on travaille ensemble, on s'entend bien. Avec le MEDEF du Val d'Oise, on travaille bien, on s'entend bien. Avec tous les acteurs, avec tous les réseaux qu'ils veulent. C'est une des grandes chances du Val d'Oise, une des grandes forces. Et la démonstration aura lieu le 28 mars à l'espace Pierre de Coubertin, à Goussainville, lors de la 10e édition du Salon Effervescence.
Merci Pierre. Oui, c'est vrai que vous le rappelez. Moi-même, je le relais régulièrement de cette bonne entente de tous les réseaux qui maillent le territoire du Val d'Oise. C'est une vraie chance. Voilà, l'émission est arrivée à sa fin. Merci Pierre Kuchli. Je le dis à chaque fois, mais c'est un vrai bonheur de vous accueillir. Et félicitations pour cette énergie très impressionnante. Donc, dans 8 jours, on se retrouve pour le salon Effervescence, espace Pierre de Courbertin.
Oui, c'est vrai que c'est déjà dans 8 jours.
Mais oui, c'est dans 8 jours.
Vite, vite, vite. Oui, bloquez la date sur votre agenda.
Donc, oui, c'est la question que j'allais dire. Vous savez s'il reste des places disponibles?
Mais je crois pas. Alors, pour les exposants, il n'y en a plus?
Non, il n'y en a plus.
Et là, on est assailli de demandes, bien sûr, dans les derniers jours, mais je suis désolé.
C'est
trop tard.
Il y avait
250 places, on a beaucoup communiqué, il n'y en a plus. Par contre, bien entendu, pour les visiteurs, il y en a. Et si vous arrivez à l'entrée, si on ne laisse pas rentrer, vous m'appelez. Vous appelez Jacqueline, elle ne va pas rentrer, vous inquiétez pas.
Une entrée qui est gratuite, hein, il faut le préciser, pour le public. Merci Pierre Kuchli. Voilà, l'économie en direct est terminée. Donc, votre conseil, bien sûr, c'est d'aller au salon Effervescence, encore et toujours.
Labellisez-vous Made in 95 et surtout venez au salon Effervescence.
Voilà, merci d'avoir été mon invité pendant cette matinée. Ne changez rien, c'est comme ça qu'on vous aime, Pierre.
Merci Jacqueline.
Merci Francky pour la technique. Merci à vous tous de votre fidélité pour l'économie en direct, comme à chaque émission. Cette émission vous a plu, alors n'hésitez pas à en parler autour de vous et retrouvez son podcast sur le site idfm98.fr. À 11h, Christophe Gravereau présentera son émission Balade musicale. Et moi, je vous retrouve vendredi prochain à 9h30. Nous parlerons là d'un sujet malheureusement trop d'actualité, mais il faut en parler, ce sont les violences conjugales, extra-conjugales. Mais d'ici là, profitez bien, prenez soin de vous et de vos proches.
partout en Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
A couple days, I wonder why I've been living in a haze. What a foolish life. Now I'm back out on the pavement, done alright. I should be dancing, I should be dancing the night away. I wish I was a disco boy, disco boy. Moving like I'm paranoid, paranoid. I wish I was a disco boy, disco boy. I should be dancing the pain away, the pain away. I'm gonna wear my favorite color tonight, all night. I'm gonna shake it like the thunder tonight, all night. Dreams up in my head, how far can I get? I hope it's not too late to die. Cause I feel like I've been going under tonight. Oh my. I've been up a couple days, I wonder why. I've been living in a haze, what a foolish life. Now I'm back out on the pavement, done alright. I should be dancing, I should be dancing the night away. I wish I was a disco boy, disco boy. Moving like I'm paranoid, paranoid. I wish I was a disco boy, disco boy. I should be dancing the pain away, the pain away. I'm gonna wear my favorite color tonight, oh my. I'm gonna shake it like the thunder tonight, oh my. I wish I was a disco boy, disco boy. Moving like I'm paranoid, paranoid. I wish I was a disco boy, disco boy. I should be dancing the pain away, the pain away.
Just wanting to say I'm cool as I am. Don't need you to stay. Hey, don't mind if you leave, 'cause I will be free.